France Inter. Le 18-20, Jérôme Cadet.
Va-t-on manquer de livres? Vous entendez depuis quelques jours monter cette inquiétude. La pénurie de papier guette le marché mondial du bois est en tension et il en faut du papier pour imprimer les plus de 400 millions de livres vendus chaque année en France. Parmi eux, les incontournables, couronnés cette semaine, Goncourt et Renaudot. Les Français en seront-ils privés pour Noël? Mais c'est à se demander ce que devient le livre numérique, car après tout, on peut en quelques clics acheter, lire un ouvrage sur son écran sans aucune consommation de papier. Ce message visiblement n'imprime pas, si je puis dire. La musique s'écoute essentiellement en streaming. Le livre en chair et en os lui reste indispensable à la grande majorité des lecteurs. Le livre, quand ce n'est pas le libraire intermédiaire, incontournable pour beaucoup, à l'heure du choix. Alors pourquoi cet attachement, pourquoi cette attente chaque année renouvelée des prix littéraires? Vous êtes-vous remis à lire avec les confinements? Et pourquoi? Comment choisissez-vous vos livres? Vous les achetez? Mais où? En ligne? En supermarché? En librairie? Vous les empruntez? Mais vous n'avez pas de bibliothèque près de chez vous? Vous avez eu 18 ans, avez-vous utilisé votre passe culture pour une BD ou un roman? On en parle ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première question, elle est pour Nils, qui nous appelle de Briançon. Bonsoir Nils.
Bonsoir, c'était pour vous... J'ai 11 ans. C'était pour vous dire que moi, le Covid avait changé quelque chose un petit peu dans ma vie, on va dire. Avant, je lisais plutôt des BD ou des bandes dessinées, quoi. Et maintenant, je me suis mis plutôt au roman, dans le sens La Guerre des Clans, par exemple.
La Guerre des Clans, qu'est-ce que c'est, Nils?
C'est un livre, c'est un roman sur les chats. Des chats où il y a beaucoup de, lectures, il y a beaucoup d'épisodes qui se suivent. Et voilà.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette lecture, dans la lecture de La Guerre des Clans? Qu'est-ce que tu ressens?
On comprend ce qu'il veut dire, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais on comprend que.
Des émotions peut-être.
Par exemple. Qu'il manque des amis des fois ou des trucs comme ça.
Merci Nils pour ce témoignage, pour cette question, pour commencer et puis pour ce conseil aussi. La Guerre des Clans, voilà, si vous êtes jeune, ça peut vous intéresser, ça peut vous plaire. Merci à nos invités d'être là. Alix Penant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice éditoriale aux éditions Flammarion, en charge de la littérature française. Vous éditez notamment Michel Houellebecq, Olivier Adam ou encore Alice Zénitaire. Avec nous également Anne Martel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la librairie Martel, c'est à Amiens, les Picards la connaissent bien, et vous êtes présidente du syndicat de la librairie française. Avec nous également Ilana Moriousef. Bonsoir Ilana.
Bonsoir.
Spécialiste littérature à la rédaction de France Inter. Vous vivez ce qu'on appelle une semaine intense, Ilana. C'est évidemment la semaine des prix littéraires. Alors, y a-t-il, Anne Martel, je vais commencer par vous, l'exemple de Nils, des jeunes lecteurs qui viennent vous voir, alors peut-être plus nombreux après le confinement ou avec des goûts différents?
Alors Nils, c'est un excellent exemple et il n'y a pas que lui qui est passé de BD manga au roman pour ados puisque ou pour jeunes enfants. La Guerre des Clans, effectivement, c'est une bonne référence. Et non, ils ont envie de découvrir autre chose. Alors le manga, bien sûr, existe toujours, mais il y a une évolution et une vraie curiosité. Et donc, ce sont des jeunes comme Nils qui viennent chez nous, qui entraînent leurs parents et qui se débrouillent avec les libraires. Et ils disent, voilà, je voudrais plutôt une aventure comme ci ou comme ça. Et c'est eux qui vont chercher aussi les livres.
Mais le manga, c'est une porte d'entrée qui fait rentrer dans vos librairies?
Bien sûr. Et d'autant plus maintenant, ça s'est accentué bien sûr avec le pass culture. Mais le manga est une excellente porte d'entrée pour découvrir des textes ensuite un petit peu plus... moins d'images et plus de textes.
Alix Penant, vous suivez, je suppose, l'évolution des attentes des lecteurs de manière très attentive. Le confinement, il a poussé les gens à lire ou au contraire, les gens ont un petit peu moins lu durant cette période parce qu'à un moment, ça a été plus difficile aussi, tout simplement, d'aller acheter des livres.
Alors oui, ça a été plus difficile. Là, je fais juste une petite parenthèse. Chez Flammarion, c'est Teresa Crémisier, l'éditrice de Houellebecq.
D'accord.
Moi, j'en suis une fervente lectrice. Je connais sans doute moins le public qui va en librairie que les libraires eux-mêmes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'évidemment, les gens avaient plus de temps. et on a espéré qu'ils lisent plus, parce que souvent c'est une des raisons
le manque de
donnent,
temps.
Voilà,
pour ne pas lire.
Pour lire moins. Évidemment, il y a aussi plein d'autres choses, hein, la concurrence des écrans, la concurrence des séries. Moi, je connais très bien La Guerre des Clans, même si je n'édite pas de littérature jeunesse, et ça me fait très plaisir que des jeunes comme ça lisent des gros romans, parce qu'en fait, on va avoir un vrai besoin de renouvellement de lecteurs.
La moyenne d'âge du lecteur, elle s'élève en France. Le lecteur moyen vieillit.
C'est chaque année. Les très grands lecteurs baissent, évidemment. Les grands lecteurs sont ceux qui lisent plus de 20 livres par an.
Il y en a de moins en moins.
Il y a de plus en plus de lecteurs occasionnels. Et on note chez les 15 ans, 34 ans, chez les plus jeunes, un appétit moindre de lecture. Les mangas, c'est formidable. Moi, je suis pour toutes les formes de lecture, numérique, manga, BD. Mais on sait que tous les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Alors, s'ils aiment les lire, ça fera sans doute nos lecteurs de demain.
Bonsoir, Delphine.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. D'où nous appelez-vous, Delphine ?
De Nantes.
Allez-y.
Alors, j'ai 48 ans et grâce au confinement, j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'on pouvait partager sa passion de la lecture. Et donc, dans un premier temps, j'ai participé à des lives sur Instagram. Et puis, les gens m'ont renvoyé l'image de quelqu'un qui savait très bien parler des livres. Et du coup, j'ai eu envie de créer mon compte sur Instagram, alors qu'à 48 ans, j'avais pas encore utilisé les réseaux sociaux. Et en fait, du coup, j'échange avec des jeunes et puis des moins jeunes sur la lecture. Donc moi, je lis 100 livres par an. Et c'est
très
grâce à...
Très grande lectrice.
Voilà, et moi, c'est une révélation, les réseaux sociaux. Et en fait, j'échange avec des vraies personnes, on se rencontre aussi en vrai. Et c'est un vrai bonheur de partager sur la lecture. Et du coup, moi, on a des tas de langages dans les bookstagrammeuses. J'ai ma PAL, donc ma pile à livres qui augmente.
D'accord.
Parce que les gens m'incitent à acheter des livres, parce que tout le monde parle avec passion des livres qu'ils ont aimés. Alors, je suis beaucoup l'actualité littéraire, parce que sur Instagram, on suit beaucoup l'actualité littéraire, mais je lis aussi des romans japonais, enfin voilà. Et donc, ce soir, j'ai un club de lecture en live avec Mademoiselle Lee, qui est une bookstagrammeuse très connue, qui a un blog et qui vit...
Des débats, des échanges, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Merci Delphine pour ce témoignage de Nantes. Ilana Manusset, vous avez de la concurrence, hein, là, vous voyez, sur les réseaux sociaux.
Oui, je tremble.
Ça fleurit.
Oui, je voulais poser une question à Alix Penant. Justement, à ce sujet, j'ai remarqué depuis quelques années que les maisons d'édition ont investi mais massivement les réseaux sociaux, et particulièrement Instagram, où on voit les photos des livres. Ce sont des jolies photos, de beaux éclairages. Puis on voit souvent un plaid, une tasse de thé fumant. Enfin, on voit bien qu'il y a un soin particulier apporté à cet aspect-là de la promotion. C'est quelque chose que vous prenez en compte quand vous lancez un livre ?
Alors, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Nous, d'abord, quand même, au niveau de la promotion, nos premiers clients, ce sont les libraires. À eux, on envoie les livres très souvent en service de presse massivement. Nos programmes, on a des représentants qui les visitent. Donc, c'est d'abord à eux qu'on s'adresse. Et puis, vous le savez, après, aux journalistes qui reçoivent tous les services de presse. Mais c'est vrai qu'on peut pas, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de communautés de lecteurs. Il y a beaucoup de booktubeuses. Il y a beaucoup de présence comme ça de livres. Alors, souvent avec le plaid, c'est plutôt Mademoiselle Lee, etc. Voilà, on s'est mis à s'ouvrir évidemment aussi à ces communautés-là qui existent sur Babelio, lecteur.com et puis...
Mais vous-même, vous communiquez sur ces réseaux-là ?
Nous, on communique. Évidemment, toutes les grandes maisons ont un service de communication digitale sur nos sorties, sur des vidéos. Alors, peut-être plus que des photos, on relaie des articles, on relaie des informations, voilà.
Anne Martel, est-ce que vous voyez arriver dans vos librairies des gens, des lecteurs qui justement sont passés par les réseaux sociaux ?
Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr. Moi, ça me faisait plaisir ce que disait Delphine, parce que c'est surtout la joie dans sa voix que j'entendais, la joie de lire et la joie de partager. Et c'est ça la lecture finalement, parce que la lecture c'est quelque chose de solitaire. Mais ensuite, on a besoin de le partager. Et au travers de ces réseaux sociaux, on voit, sans concurrencer les critiques, on voit quand même qu'il y a des conseils de lecteurs. Ah bah attends, tu as lu celui-là, tiens, je te le donne et tout. J'ai aussi des clients, par exemple, qui vont acheter un livre en plusieurs exemplaires parce qu'il leur a plu et ils vont l'offrir aussi à des gens pour qu'ils le lisent et que le livre passe de main en main. C'est cette joie, moi, qui me plaît beaucoup chez Delphine.
Question pour vous, Alix Penant, de Patrick qui nous écrit de Bourges. Je lis beaucoup, environ un livre par semaine, mais je n'ai pas les moyens de mettre 25 euros toutes les semaines. Pourquoi les nouveautés ne sortent-elles pas en poche en même temps? Cela pourrait toucher un public plus large.
Ah oui, mais ça c'est impossible. Je comprends le rêve, mais ça c'est impossible. Comme les éditeurs évidemment cèdent en poche à peu près toutes leurs nouveautés, et souvent elles sont en librairie un an et demi après. Évidemment que pour toute l'économie du livre et aussi pour les droits d'auteur des auteurs eux-mêmes, on a besoin de sortir les grands formats et de les laisser exister comme ça longtemps. Donc c'est aussi notre économie et c'est aussi pour les auteurs. Tous les livres ne sont pas à 25 euros, mais c'est vrai que c'est un certain budget quand on en lit un par semaine.
Alors, vous êtes éditrice, on parlait des conséquences du confinement pour les lecteurs. Est-ce que du côté de la création, il y a eu des conséquences? Est-ce que vous recevez beaucoup plus de manuscrits que précédemment, ou est-ce que les thèmes ont complètement changé depuis ce qui a bouleversé nos vies début 2020?
Alors, il y a eu quelques textes, évidemment, qui se passaient pendant le Covid, qui avaient le Covid pour sujet. Mais en fait, on a toujours énormément reçu de textes. Les Français écrivent beaucoup. Une maison comme Flammarion, par exemple, c'est à peu près 5000 textes par an qu'on reçoit.
Et vous donc, en retenez combien?
Peut-être 5 les bonnes années.
5 sur 5000?
Sur 5000, oui. 5... Oui, à peu
oui,
près.
Oui, donc la sélection est terrible.
La sélection est terrible, mais...
Et vous lisez les 5000?
Une partie d'entre eux sont lus intégralement, d'autres sont feuilletés quand ça correspond pas à notre ligne éditoriale, on peut le voir, etc. Mais oui, ils sont tous ouverts, ça.
Ouverts, vous lisez quoi, les premières lignes?
Non, on lit plus que les premières lignes. Parfois on lit jusqu'au bout, parfois on met en lecture, parfois on lit deux fois et puis on publie pas. Quand on envoie un livre à une maison d'édition, on peut être assuré, en tout cas, d'être lu.
Nous accueillons Gérard au Standard de France Inter. Bonsoir Gérard. Gérard qu'on va voir dans une minute. J'avais une question à poser à Anne Martel. Anne, je lisais dans le baromètre Les Français et la lecture qui a été publié au printemps, c'est un baromètre qui est publié régulièrement, que les Français voulaient justement davantage de conseils, d'échanges et de recommandations en ligne. Et que parfois, ça pouvait être un frein à la lecture de ne pas avoir quelqu'un pour s'accompagner, donner des conseils.
En ligne?
Oui, absolument. Trouver des relais, en fait. Quelqu'un qui vous accompagne, qui vous donne des conseils.
Un shopper... Je comprends pas la question. C'est-à-dire qu'ils veulent...
Les Français sont plus preneurs d'échanges et de recommandations en ligne pour, ce que nous disait Delphine il y a une minute, finalement, savoir un petit peu où aller et se retrouver parmi toute l'offre qui existe.
Mais pardon, si je peux me permettre d'intervenir. Pardon, Anne.
Ilana Mouyoussef.
Beaucoup de libraires ont des sites internet qui sont personnalisés, c'est-à-dire qui mettent en avant des livres que leurs libraires ont lus et aimés. Donc, je ne sais pas si c'est ça que notre auditeur voudrait, peut-être davantage.
Non, là,
c'est ce
qui ressortait de ce baromètre et de cette étude, en fait, davantage de conseils et parfois des lecteurs un peu perdus face à l'ampleur de l'offre et qui voulaient être plus guidés. Anne Martel.
Oui, comme disait Ilana, effectivement, il y a beaucoup de libraires qui maintenant ont soit leur site internet vendeur, soit une page Facebook, soit ils sont sur Instagram, et sur les pages Facebook ou sur Instagram, ils postent régulièrement des conseils de lecture. Donc, je pense que normalement, quiconque nous écoute ce soir, quiconque habite dans une ville moyenne, petite, un centre-bourg ou une grande ville, peut avoir son libraire indépendant, peut-être à une demi-heure de route au maximum, mais il y aura un conseil en ligne, pour le coup, parce qu'il y aura forcément un site internet et il y a des portails de libraires, comme librairieindépendante.com, où on peut tout à fait trouver ce type de conseil. Et après, il y a toutes les pages Facebook des librairies.
Et nous accueillons Gérard, qui nous appelle de Guérande. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir. Alors en fait moi je veux pas dire que je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit, mais Dans le sens qu'il y a effectivement une offre pléthorique de livres aujourd'hui, et il est effectivement difficile de s'y retrouver. Et alors il y a beaucoup de librairies qui ont fermé ces dernières années, ou les années précédentes, je ne sais pas dire. Voilà. Et aujourd'hui, les quelques libraires qui restent, moi je lis beaucoup et je passe beaucoup par des libraires indépendants autour de chez moi, en fait ils n'arrivent pas à faire face à l'offre de livres. Et je vous donne juste une anecdote pour l'illustrer. En allant chez mon libraire il y a cet été, je suis tombé dans sa vitrine sur un livre. J'avais été interpellé par la couverture. Ça s'appelait Aimer les bottes. C'est un petit livre qui avait l'air sympathique.
Pourquoi pas ?
J'en avais jamais entendu parler. C'est en Bretagne, Aimer les bottes. Et il y a des enfants qui passent à ce moment-là qui disent « Ah, c'est super !» Et sur un coup de tête, j'ai acheté le livre. Mmh. Mon libraire, ne savait même pas qu'il l'avait dans la librairie. Il a pas pu m'en parler. Alors après coup, c'était une découverte sympathique, pour en avoir reparlé plusieurs fois avec lui, il m'a dit mais trop de livres, trop de choses qui nous arrivent des éditeurs, et on ne peut pas tout connaître. Et voilà. Et même s'ils lisent eux-mêmes beaucoup, ils ne peuvent pas faire face à l'offre pléthorique de livres qui leur arrive. Voilà. Et même si les maisons d'édition sont très sélectives, comme ils l'ont dit tout à l'heure,
Merci Gérard pour ce témoignage. Alix Penant, vous qui êtes directrice éditoriale aux éditions Flammarion. Trop de livres ?
Oui, alors c'est un reproche qu'on entend souvent, qu'on nous fait souvent à nous éditeurs. On produit, effectivement, notre production va grandissante. Peut-être il faut dire que si elle va grandissante, c'est aussi un signe de vitalité de la création en France. Il y a de plus en plus d'auteurs, il y a énormément de maisons d'édition, il y a eu énormément de petites maisons d'édition ces dernières années qui se sont créées. Donc, quand on a un bon livre et qu'on est éditeur et qu'on est face à un très bon livre, on ne va pas renoncer à le publier en se disant qu'il y a déjà trop de livres à la rentrée littéraire. Donc après ça, je sais bien que quand on dit il y a 500 livres à la rentrée littéraire, on se dit évidemment tous ces livres ne peuvent pas trouver une place sur les tables des libraires, et les libraires évidemment ne peuvent pas absorber une production comme ça. Mais on a quand même beaucoup de passeurs. On a évidemment les libraires, on a les journalistes, on a des sites, tout ce qu'on a dit. Donc on peut quand même arriver à cheminer au milieu de tout ça et trouver les livres qu'on aimerait lire et qu'on va lire.
Anne Martel, vous qui dirigez la librairie Martel à Amiens.
Mais évidemment, il y a trop de livres. Alors moi, je comprends le souci de l'éditeur qui est de publier le texte auquel il croit. Effectivement, quand on se retrouve avec plus de 500 nouveautés à la rentrée de septembre, et je pense qu'à la rentrée de janvier, ce sera à peu près la même chose, le libraire ne peut pas absorber tout. Donc fatalement, il va faire un tri qui va être drastique. Alors, heureusement que les libraires sont indépendants, heureusement que chacun choisit dans sa librairie les livres selon ses envies, ses goûts, sa couleur et ses habitudes de lecture et l'envie d'être surpris, parce que ça laisse le choix à la diversité éditoriale. Mais bien évidemment, il y a des livres qui vont passer à la trappe.
Alors, notre auditeur à l'instant nous dit « je vais en librairie pour acheter mes livres ». Où est-ce que les Français achètent leurs livres, Alix Penant ? Quel est le geste prioritaire, si je puis dire ? Où est-ce qu'on va ?
Je pense qu'en librairie.
En librairie, d'accord.
En librairie, aux espaces culturels Leclerc, à la Fnac, etc. Vous voulez savoir s'ils achètent beaucoup sur Amazon,
par exemple, et l'évolution de ces ventes.
Je crois que c'est
en ligne.
Que malheureusement ça évolue sur Amazon. Mais il y a quand même beaucoup de portails de librairies indépendantes. On les a cités
Pourquoi
tout à
vous
l'heure.
Dites malheureusement.
Parce que moi,
vous préféreriez qu'il y ait moins de ventes en ligne et plus de ventes physiques ?
Plus de ventes physiques ou plus de ventes sur les portails des libraires qui sont eux-mêmes tout à fait habilités à vous envoyer les livres et à les garder. Donc tous ces portails-là, moi, je préfère qu'on puisse continuer à préserver quelque chose qu'on a et qui est exceptionnel en France, qui a un réseau de librairies indépendantes et un grand maillage du territoire en offre de livres. Vous disiez à moins d'une demi-heure, c'est vrai qu'on trouve des livres partout en France. Et ça, c'est un peu notre spécificité française et il faut la conserver.
Jérôme nous appelle de Fontaine. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais simplement témoigner de la métamorphose que j'ai constatée pendant le confinement. Mon fils, mon ado qui à 15 ans et qui était inscrit dans un club de lecture, lisait régulièrement et allait en bibliothèque. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à lire des séries qu'il trouve sur Internet, des livres auto-édités qui viennent en général, qui sont écrits en coréen et qui sont traduits à la volée et qui lit comme ça au fur et à mesure avec des copains. Avec qui il échange et j'arrive pas du tout à lui refaire remettre les pieds dans une dans un vrai livre. Je suis pourtant allé en librairie, on a essayé de lui conseiller des choses, mais bon, il décroche pas de ça. Bon, à la limite, moi ça me dérange pas.
Ça vous inquiète ou vous vous dites au final il lit, donc c'est
voilà,
bien.
Au final il lit, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il lisait des choses qui étaient, il s'est rendu compte lui-même qui étaient auto-traduites par Google et qui avaient pas vraiment la qualité de ce que j'appelle moi un livre édité. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais bon, pour l'instant c'est un ado, hein, c'est pas bien grave, il l'a lu, je pense qu'il relira, mais des vrais livres, hein, j'entends, mais c'est vrai que c'est une constatation, une évolution que je remarque, et j'ai l'impression que ses copains sont pas mal là-dedans aussi. Hein.
Merci à vous, Jérôme Martel, c'est une évolution du lectorat chez les jeunes qui vous inquiète, ou vous vous dites, le fils de Jérôme, à un moment, il va venir dans une librairie ou un espace culturel?
Je pense que de toute façon, il retournera au livre à un moment, enfin au livre en librairie. Je pense aussi peut-être, on était dans un contexte un peu difficile. Le Covid, c'est un ado, c'est la solitude. Donc, il a recréé peut-être aussi une certaine fraternité avec ses copains auprès de ses livres sur Internet, où il se retrouve finalement avec ses copains pour lire ses livres traduits. Plus ou moins bien, certainement pas terriblement, mais ça fait partie aussi de sa vie d'ado et peut-être de sa manière de lutter lui aussi contre les confinements et tout ce bouleversement qu'on a vécu l'année dernière.
Alix Penant, les nouveaux lecteurs viennent à la lecture de cette façon-là.
Eh bien, visiblement oui. Moi, je les connais pas tous. Ce que je sais, c'est que je crois qu'en juin dernier, la lecture a été grande cause nationale et que voilà, c'est vraiment un sujet les jeunes et la lecture qui doit nous préoccuper en premier lieu, à la fois pour renouveler nos publics et aussi parce que je pense que c'est un public incroyablement captif, que ça s'éduque et c'est un plaisir qui peut se transmettre. Donc voilà, moi je suis pas ministre de l'Éducation. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en direction des jeunes et qui sont, quand eux rencontrent des auteurs, quand on leur fait passer des bons textes, ils sont toujours très preneurs. Donc en fait, il y a de quoi espérer.
Voilà, des témoignages. On a beaucoup de témoignages ce soir sur l'amour de la lecture des auditeurs de France Inter, tout simplement. Je vous en livre deux. Nathalie, c'est étonnant comme le rapport au livre peut être viscéral. Je conserve la plupart de mes livres en carton ou dans des paniers depuis mon dernier déménagement. Leur présence m'est vitale. Faute de pouvoir installer ma bibliothèque, j'aime sentir l'odeur des livres, faire durer mes lectures pour pouvoir mieux m'en délecter. Je pense que c'est pathologique. Et puis, on a une lectrice plus jeune, Léonie, qui nous écrit de Quimper. J'ai 12 ans, je suis passionnée par la lecture. Et pour me fournir en livres, ce n'est peut-être pas original, mais je vais chez Emmaüs. C'est un grand fournisseur de livres. Voilà une autre manière de se procurer des livres à moindre coût. C'est votre cas également, Gwen. En tout cas, la préoccupation sur le coût des livres. Bonsoir, Gwen.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. D'où nous appelez-vous ?
De Mérignac. J'appelais plus, moi, par rapport au Pass Culture. Qui en fait a priori était lancé pour a été présenté pour relancer le secteur de l'édition, de la culture, etc. Et en fait j'ai découvert à travers mon libraire indépendant de ville que c'était pas accessible. Donc j'ai un fils de 18 ans qui pouvait profiter de cet accès aux différentes offres proposées, mais par contre tout ce qu'on lui proposait c'était la FNAC, c'était Cultura. Alors j'ai rien contre, je trouve juste dommage que son petit libraire indépendant local pouvait pas lui offrir
bon.
Ces choses là
pardon, si alors Ilana, bien sûr, Ilana
Mon Youssef. Je trouve ça très étonnant parce que je lis régulièrement des témoignages de libraires qui racontent tel jeune est venu avec son pass culture et ils ont acheté 3 tonnes de mangas, il est revenu la semaine d'après avec des copains. Donc je trouve ça tout à fait étonnant.
Oui, moi j'en ai rencontré beaucoup en tournée libraire à l'été. Effectivement, ils avaient tous instauré le pass culture et ça marchait très bien.
Anne Martel, vous nous rappelez le principe du pass culture et vous nous confirmez qu'on peut l'utiliser dans vos librairies ?
Ah, je confirme totalement qu'on peut l'utiliser dans les librairies. Donc là, je pense que le libraire devrait se rapprocher de sa fédération régionale de libraires pour avoir les contacts et installer ça dans sa librairie. Mais c'est sans aucun problème, aucun problème. Sont exclus simplement en matière de livres du Pass Culture les livres scolaires et le parascolaire. Pour le reste, on peut tout acheter à partir de 18 ans sur une somme de 300 euros, je crois.
Donc quand on a 18 ans, on touche ce passe de 300 euros qui vous permet d'acheter notamment des livres, et ça fonctionne dans les librairies indépendantes comme dans les autres espaces culture. Vous nous le confirmez. On parle des lecteurs, on parle aussi de ceux qui permettent aux livres d'arriver dans les librairies, les éditeurs. Alix Penant, vous êtes directrice éditoriale aux éditions Flammarion. Nous sommes en ligne avec Marie-Pierre Grâce-Dieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditrice, vous allez le devenir, vous montez une maison d'édition qui s'appelle Le Bruit du Monde, vous publierez vos premiers livres au printemps prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? Parce que je crois que vous travailliez précédemment dans une grande maison d'édition, en l'occurrence Gallimard, et que vous avez décidé de vous lancer.
Oui, à vrai dire, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier et j'ai longtemps travaillé en littérature étrangère, puisqu'avant de travailler pour les éditions Gallimard, j'ai dirigé la Cosmopolite chez Stock. Puis j'ai passé 8 très belles années chez Gallimard à découvrir des auteurs, à prendre soin d'auteurs déjà installés. Et c'est vrai qu'il y a un an, j'ai eu la chance de rencontrer de personnes qui m'ont fait confiance, appartenant au groupe Editis, Jean Spiry, Michel Benbunan, et de conversations assez inspirées m'ont permis de comprendre que j'avais très envie de composer un programme plus resserré autour d'une vingtaine de livres par an, de me permettre aussi de publier et des romans et des récits et des essais qu'on appelle narratifs. Enfin, en gros, mon souhait est vraiment de repérer des auteurs qui embarquent les lecteurs à la rencontre de réalités soit étrangères, soit des réalités qu'on pense familières et en fait qu'on connaît mal. Et je pense qu'un livre, effectivement, nous permet de revisiter nos certitudes. Comme Alix le disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, c'est une mission très très importante que d'aller vers ces jeunes lecteurs, et peut-être avant tout parce que la sensibilité se forme aussi là, à la rencontre de personnages qui sont très différents de nous.
Comment est-ce que vous sélectionnez les livres que vous éditez? Est-ce que vous allez chercher peut-être des profils qui n'existent pas aujourd'hui dans la littérature? Est-ce que c'est pour vous une préoccupation?
Oui, on est à la recherche d'histoires inédites avant tout. C'est vrai qu'en arrivant à Marseille, eh bien, on avait l'espoir de rencontrer des écrivains qui nous permettent de redécouvrir certains sujets encore une fois, et ça a été le cas, puisqu'un de nos premiers livres qui paraîtra en avril prochain, c'est un écrivain du nom de Christian Astolfi qui vit à Marseille depuis une vingtaine d'années, et il s'est emparé de l'histoire des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, ce lieu où on construisait les grands bateaux, voilà, qui assuraient la gloire aussi de l'Empire français pendant longtemps, et il a imaginé un narrateur qui a passé les 15 premières années de sa vie professionnelle, mais il se trouve que ces années-là, mi-70, début 90, ont aussi été les 15 dernières années des chantiers. Donc c'est toute une chronique sociale, politique de ces années-là. Ce personnage, ce narrateur, fait revivre un certain nombre de camarades, collègues qui eux-mêmes travaillent là. On redécouvre leur métier. On est une histoire d'amour avec un très beau personnage féminin. Très engagée, Louise, qui est une infirmière qui attend l'élection de Mitterrand avec impatience. Donc, effectivement, on a eu l'impression de trouver ici des auteurs qui avaient des histoires inédites à nous raconter.
De nouvelles maisons d'édition, peut-être plus petites, qui ont connu le succès. Ilana Mouriouzef, cette semaine, notamment avec le Goncourt, c'est un encouragement.
Oui, donc évidemment, ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était en 1984, avec les éditions de Minuit. Donc ça fait 37 ans, si je calcule bien. mais c'est vrai que les petites maisons indépendantes, enfin, les maisons, elles n'aiment pas qu'on dise petites maisons. Donc, il faut dire, les maisons indépendantes de petite taille sont à nouveau à l'honneur, et c'est une très bonne chose.
Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est complémentaire des grandes maisons ou des maisons historiques, si je puis dire?
Alors ça, peut-être qu'Alix peut me répondre. Vous êtes complémentaire, vous êtes rival, vous êtes...
Moi, je n'estime pas qu'on est complémentaires, parce que nous aussi, dans les grandes maisons, on cherche la nouveauté, on cherche des talents rares, des voix qui se sont jamais exprimées, des histoires totalement inédites. Donc, on cherche très souvent exactement la même chose que les maisons indépendante de petite taille. Donc, non, pour moi, Rival, non, évidemment, au moment de la rentrée, tout le monde espère gagner un prix, etc. Mais on fait ensemble, peut-être, vivre la littérature aujourd'hui.
Marie-Pierre Grâce-Dieu, j'ai une question pour vous.
Oui.
Vous êtes toujours là. Oui. Dans votre nouvelle structure, donc, il y aura pas, vous n'allez pas faire que éditer des livres. Si j'ai bien compris, vous avez aussi organisé, vous organisez déjà des ateliers d'écriture. Alors comment ça marche et qu'est-ce que vous espérez y faire ?
On avait cette idée, mon compagnon Adrien Servière et moi, dès le début, effectivement, puisque on avait très envie d'abord de maintenir des liens avec des auteurs et des autrices qu'on connaît depuis très longtemps et qui aiment animer ce genre d'atelier. On avait envie de garder ces liens à Marseille et bien évidemment aussi l'espoir de rencontrer parmi les participants des écrivains de talent. Mmh. Et c'est vrai qu'en arrivant à Marseille, nos locaux l'ont permis. L'une de nos autrices, Alice Kaplan, nous a proposé à la fin de l'été un très beau sujet, à savoir l'archive. Et j'étais très heureuse que finalement elle choisisse un sujet qui permette aussi d'une certaine manière de monter un peu le niveau d'exigence et que ce soit inspirant. Et donc ils ont venu travailler avec elle à partir du 15 novembre, tous les soirs, 2 heures, dans nos bureaux, sur ce thème. Ils pourront choisir une archive personnelle, historique, et en faire un récit, un essai, peut-être un roman. Voilà, ce sera le premier. Et on compte en faire un à peu près tous les mois avec des écrivains, des écrivaines qu'on apprécie et les recevoir chez nous. C'est l'idée aussi de faire vivre un peu ce lieu.
Le premier d'une longue série, on vous le souhaite en tout cas, Marie-Pierre Grâce-Dieu. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir depuis Marseille, Le Bruit du Monde, donc cette maison d'édition qui commencera pour vous à publier en mars de l'année prochaine, en mars 2022. Nous sommes avec Stéphanie qui nous appelle au Standard de France Inter. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Votre question, votre remarque ?
Alors moi, c'était pour apporter un témoignage. En fait, moi, je suis ORL, donc je suis spécialisée dans les retards de langage et les troubles de l'audition chez l'enfant. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de problème de surdité, mais qui avaient un retard de langage chez des petits-enfants de moins de 3 ans, le point commun de ces enfants, souvent, c'est qu'ils n'ont pas accès aux livres. Soit parce que les parents ne sont pas lecteurs, soit parce que ils ne voient pas bien l'intérêt de lire des histoires à leurs enfants. Et moi, vraiment, au quotidien, j'encourage les parents à lire des livres à leurs enfants, des livres qu'ils peuvent emprunter à la médiathèque, des livres qu'ils peuvent acheter dans les librairies. Souvent dans les médiathèques, les rayons enfants sont hyper bien achalandés. Et ça permet vraiment de faire du lien avec son enfant, de stimuler son vocabulaire, de stimuler son imaginaire, pour qu'ensuite, il puisse accéder au langage et mettre en place des jeux de symbolique, des jeux où ils refont les situations qu'ils ont vues dans les livres, et ça permet vraiment, vraiment de les faire grandir, ces enfants.
Merci pour ce témoignage, Stéphanie. Anne Martel, je suppose que vous approuvez.
Ah bah moi je suis ravie d'entendre des témoignages comme ça, et on en a souvent. On sait que le livre et surtout le livre en partage avec les parents, c'est-à-dire le parent qui raconte l'histoire et l'enfant qui va tourner les pages, qui va montrer le petit ours, qui va compter, enfin bref, qui va interagir avec le livre et avec le parent, il n'y a rien de tel pour faire grandir un enfant.
Où trouver les livres ? On a encore des messages à ce sujet. En médiathèque, 1 mois et demi après les sorties des nouveautés, on les a, nous écrit Claude. Donc évidemment, les médiathèques, les bibliothèques qu'on n'oublie pas. Et puis Jean-Jacques qui nous appelle de Mayenne et qui nous dit « Acheter des livres neufs n'est pas la seule manière de lire. Pensons aussi au marché de l'occasion où se retrouvent parfois les livres que vous éditez à l'Exponent. » Je parlais de 2022 à l'instant, c'est une année présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de livres vendu dans cette année présidentielle? Est-ce que c'est une inquiétude pour vous ?
C'est toujours une petite inquiétude pour l'édition, et notamment quand on fait de la littérature et de la fiction. On a remarqué que pendant les élections présidentielles, les gens lisaient moins de fiction. Voilà, c'est presque une donnée.
Ils sont happés par l'actualité
politique. Alors peut-être plus d'enquêtes, de reportages, de docs, et happés par l'actualité politique. Mais effectivement, on sait qu'il y a toujours une petite baisse sur la fiction dans ces années présidentielles-là.
Anne Martel, les livres politiques, ça se vend bien ?
Ah oui, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit, oui. Et là, on voit bien la montée.
Vous confirmez quoi ? Que les livres politiques se vendent bien ou qu'on vend moins de livres une année présidentielle ?
Les deux.
Les deux, d'accord.
Les deux. Oui, de facto, la fiction va baisser, et ça, on s'y attend un tout petit peu. Et par contre, les documents politiques vont monter en puissance petit à petit au fur et à mesure de la campagne qui va se dérouler.
Merci Anne Martel d'avoir participé ce soir à ce téléphone sonne. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la librairie Martel. C'est à Amiens, présidente du syndicat de la librairie française. Merci à Alix Penant, directrice éditoriale aux éditions Flammarion. Merci également à Ilana Moriousef, spécialiste littérature à la rédaction de France Inter. On a eu un message de Céline qui nous dit on n'a pas de conseils lecture pour les enfants, il n'y en a pas assez dans les médias. Je renvoie à l'Atulu Mon Petit Loup, 15h50, tous les dimanches, avec Denis Chessou. Et puis c'est également à retrouver sur franceinter.fr. Si vous aimez les livres, je signale la foire du livre de Brive ce week-end. C'est à partir de demain, je crois, Alix, c'est ça ?
Tout à fait.
Jusqu'à dimanche. C'est l'heure des remerciements. Je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué à ce 18-20 toute cette semaine, à la technique Philippe Duclos, Fabrice Desmaz, à la réalisation Tristan Gratalon, à la programmation Adèle Doma, autrement dit Mortel Adèle, Nathalie Poitvin également, rédaction en chef Marie-Claude Pinson pour le web, Clémentine Ducasse, demain Frédéric Barrère sera là pour le 18-20, Fabienne Sintès à partir de lundi. J'étais très heureux de partager cette semaine avec vous.